frappé solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Ne manquez pas Safia Nolin en concert le 9 décembre au Pantoum à Québec. Elle y présentera son plus récent EP, Sum, en full band. Détails et billets au safianolin.com.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
De lecture prennent parfois l'aspect de petits miracles personnels. Un écrivain en emmène un autre, puis, de fil en aiguille, on se retrouve envahi par un esprit, par ces mots qui viennent parler au tréfonds de notre être. On ne peut plus arrêter de lire notre nouvelle trouvaille littéraire. Je lis actuellement Whitman à cause de Jack Kerouac. C'est Danny Laferrière qui m'a mené à Bachot. Quant à celui qu'on surnomme le dernier des beatniks, je l'ai découvert grâce à Mayonnaise de l'auteur québécois Éric Plamondon. Je ne pensais pas, en prenant au hasard ce petit roman dans une boîte à livres, me découvrir une passion pour l'un des plus uniques écrivains américains du dernier siècle, Richard Brautigan.
Poetry is telegrams of the human soul to illuminate, to make us more compassionate, to understand more of our condition. The human condition.
Bonjour et bienvenue à la planète des sages en ce beau jeudi du mois de décembre. Je suis François Provost et je suis avec mes collaborateurs Patrick Couture. Bonjour Patrick.
Bonjour François.
Ainsi que Milly Brousseau-Gauthier. Cela dit, Milly, on n'entend pas ta voix. Bonjour, ça va bien?
Salut, ça va?
OK, c'est bon. C'était juste pour être sûr de ne pas mêler nos auditeurs parce que c'était pas ta voix qu'on a entendue en début d'émission, c'était celle de Richard Brautigan, un personnage qu'on va avoir la chance de connaître un peu plus tout au long de l'émission grâce à toi, Patrick, qui nous le présente cette semaine.
Oui, exactement. Je suis bien content. Comme à chaque fois, les figures que je viens présenter à l'émission, je les prépare pendant très, très, très longtemps. Là, c'était quand même de pair avec Milly, qui le connaît bien, n'est-ce pas, Milly?
Oui, effectivement. J'ai fait sa rencontre littéraire l'année dernière et depuis, je pense que j'ai lu à peu près 4-5 de ses romans. Donc, et j'ai aussi lu les romans de Éric Plamondon qui parle un peu de Brautigan. Donc, ça a vraiment été une super découverte pour moi. Puis, je l'ai découvert, en fait, à cause de ta suggestion de lecture.
C'est ça, j'allais te demander grâce à qui. OK, c'est grâce à moi. Grâce.
Oui, bien, effectivement, merci. Parce que j'ai... la petite anecdote, c'est que j'avais reçu un certificat cadeau du site Les Libraires d'une bonne amie à moi. Donc, je savais pas trop quoi acheter. Fait que je lui ai demandé une suggestion littéraire. Puis, avec le montant du certificat cadeau, je vais pouvais, j'avais la chance de pouvoir m'acheter plus qu'un livre. Donc, j'ai demandé à Pat, qui était un bon ami qui aimait bien la littérature, et je lui ai demandé ça serait quoi sa suggestion, et il m'a suggéré La pêche à la truite en Amérique, donc le premier roman de Bulligan que j'ai lu et qui m'a fait entrer dans son univers.
On dirait que je suis surpris que tu aies uniquement suggéré un livre. Dans ma tête, tu en aurais comme suggéré 1000. Puis tu as fait un résumé d'une page pour chaque, de quoi de même?
Je pense que j'en avais suggéré beaucoup, mais que c'est effectivement La pêche à la truite qui t'appelait le plus. Il faut dire qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais quand même très envahi par l'esprit de Brodigan. Moi, c'est un
envahi
qui
ou envahissant?
un peu des deux. Mais il faut dire que c'est ça, Richard Brodigan, comme je le disais en introduction, moi, je l'ai découvert grâce à Mayonnaise. Donc, Mayonnaise, c'est une espèce... C'est un roman où on suit un personnage. En fait, ça fait partie d'une trilogie de Plamondon, et chacun des livres, il y a un aspect biographique, donc il y a un personnage auquel on s'intéresse, c'est le deuxième de la trilogie, donc celui qui est nommé Mayonnaise. Le personnage auquel on s'intéresse, c'est Richard Brodigan. Donc c'est comme ça que j'ai fait « Ah, faudrait que je le lise », parce que on n'en parlera pas aujourd'hui, mais la trilogie d'Éric Plamondon 1984, ça vaut la peine. Beaucoup. Bon, donc, toi, François, tu ne savais pas.
Je connais rien de ça. Moi, j'ai honnêtement, c'est à travers cette émission cette semaine que j'ai eu la chance de tomber dans l'univers de Richard Brodigan, et qui est un, tu sais, on le dit d'entrée de jeu, mais est un poète et un écrivain. Et moi, c'est, je dois l'avouer, même dans le monde de la poésie, j'ai pas fait beaucoup de saucettes dans ce monde-là. C'est pas quelque chose que je suis habitué. Donc, en même temps, ça m'a fait un peu explorer l'univers de Brodigan, mais en même temps explorer le monde de la poésie. Donc, je suis un néophyte dans tout ça, là. Fait qu'en même temps, ça va vous forcer à vulgariser vos propos. Parce que je vais dire, je comprends pas.
Oui, mais c'était intéressant d'ailleurs, parce que cette semaine, je te faisais lire des poèmes de Brodigan et je te voyais être comme, ah, qui c'est ça? De à la fois expérimenter l'écriture de Brodigan, mais la poésie. Et il faut dire que c'est un poète assez unique, mais bon, là. Pour comprendre tout ça, il faut savoir de qui on parle exactement. Richard Brodigan est né, Richard Gary Brodigan, le 30 janvier 1935 à Tacoma. Ça, c'est dans l'État de Washington, donc on est au nord des États-Unis, mais sur la côte ouest. Sa mère, c'est Lulu Mary ou Mary Lou Kahou. Kihou, en tout cas, je ne sais pas vraiment comment le prononcer, mais c'est Mary Lou, qui a quitté son père, donc Bernard Brodigan, quelques mois juste avant que Brodigan naisse, sans savoir qu'elle était enceinte. Donc, ils se sont séparés, ils se sont jamais revus. Probablement même que Richard Brodigan n'a jamais rencontré ou même parlé à son père. Là, il y a une anecdote que son père a appris qu'il y avait un fils à la mort de Richard Brodigan. Pourtant, il y a Brodigan lui-même, Richard, l'enfant, qui va donner des indices contraires. En tout cas, c'est pas si important, mais il a pas eu de relation avec son père, du moins ça, on est sûr, là, de vraiment là, une relation père-fils claire. Et d'ailleurs, il va passer une enfance très difficile. Il va déménager énormément, il va vivre dans la pauvreté, il va se faire maltraiter par ses beaux-pères. Il va avoir de nombreux beaux-pères qui vont être légèrement violents avec lui, ou même assez violents. Et puis c'est à l'adolescence qu'il va découvrir la poésie. Donc il va écrire ses premiers poèmes. Il va aussi commencer à lire deux de ses plus grandes influences. On parle de Emily Dickinson et William Carlos Williams. Que personnellement, je connaissais Emily Dickinson, c'est une des plus grandes écrivaines, ben, poètes américaines. William Carlos Williams, je suis allé en lire récemment, puis on voit quand même la filiation, une poésie assez simple, là, qui est vraiment dans le... comment dire, dans saisir le moment, mais à travers... pas de grande envolée là, le plus possible dans, c'est ça, là, une représentation simple du réel, mais qui fait ressortir la charge poétique dans cette simplicité-là. Et on va voir qu'il y a quand même quelque chose de ça chez Brodigan.
Moi, ce que j'aime beaucoup de cet auteur-là, c'est que son nom soit un palindrome, donc qu'on peut l'inverser, et ça fait encore Williams Carlos Williams. Bon, c'était mon...
Merci, François. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans cette intervention? Alors, c'est en 1955 que Richard Brodigan va vivre un événement assez marquant dans sa vie. Un soir du réveillon de Noël, ou en tout cas proche de Noël, il avait 20 ans, et puis il va être enfermé en centre psychiatrique, ce qu'on appelait à l'époque un asile de fous, parce qu'il avait lancé une pierre à la fenêtre d'un poste de police. Et on raconte qu'en fait, c'est qu'il avait vraiment faim. C'est sa fille, surtout, là, qui rapporte ça dans une introduction de sa poésie complète. Et elle dit qu'il était littéralement affamé. Et puis, en fait, c'est qu'il est allé voir la police. Il a demandé « Est-ce que je peux passer une nuit chez vous pour manger et avoir une place où me loger? » Et ils ont dit « Non, pour ça, il faut que tu commettes un crime. » Donc, il a commis le crime. Et puis, on dit que devant les juges, il était un peu presque coquille. Il a dit qu'il allait devenir un écrivain célèbre. Et il a dit aussi qu'il méritait une bonne leçon aux juges. Ce qui a mené les juges à faire « Ouais, la prison, c'est peut-être pas la solution. Il va passer là, près d'un mois à l'asile de Salem, donc aux États-Unis. » Proche de Tacoma, justement. Et c'est à sa sortie qu'il va être conduit par un ami presque jusqu'à San Francisco. Il va faire la fin de la route en autostop, mais bon, c'est là qu'il décide de se diriger vers la Californie. Et il veut vraiment, à ce moment-là, percer par, justement, l'écriture. Il décide, moi, je vais devenir un écrivain célèbre. Et il va d'ailleurs rencontrer tout un milieu de poètes. Faut dire que San Francisco, à l'époque, c'est the place to be, pour parler en bon français. Là, il y a toute une effervescence.
C'est, on parle des débuts des années 60, milieu ou...
56, donc.
OK, les années 50.
Donc, avant, donc on est plus dans la Beat Generation, comme on en parlait la semaine dernière, ce qui est intéressant, puisqu'on parlait de Louise Latraverse, qui a marié un homme, donc Emmett. Et Emmett, c'était un membre des Diggers. Eh bien, c'est intéressant de savoir que Brody Gunn va beaucoup passer de temps avec les Diggers. Il va s'impliquer un peu au sein de ce mouvement-là, un mouvement anarchiste américain.
Même qui a dédié un de ses poèmes à Emmett Grogan, le mari de Louise Latraverse.
Intéressant.
Ouais, exactement. Donc, on fait des liens. On est dans la même effervescence, mais là, vraiment du côté très américain. Puis c'est ça ce qui arrive avec Brody Gunn. Faut le dire, là, c'est que c'est un gars qui arrive de nulle part. Il arrive d'une région, d'un petit endroit aux États-Unis avec de grandes ambitions. D'ailleurs, il va rencontrer Virginia Dionne Adler, qui va être sa première femme. Et ensemble, ils vont vraiment avoir un moment de création. Là. Ils vont publier à compte d'auteur des petites plaquettes de recueils de poèmes, entre autres le premier recueil de Brody Gunn, Return of the Rivers. Ils vont aussi publier des trucs comme Alley de Marble Tea et Octopus Frontier. C'est un moment de création, d'expérimentation. Pour donner quelques exemples, il y a un recueil de Brody Gunn qui s'appelle, c'est mes histoires préférées, ça s'appelle Please Plant That Book. Et c'est des poèmes imprimés sur des sachets de graines pour que les gens puissent cultiver des jardins de poèmes.
Oh.
Donc on voit le mouvement hippie qui pointe à l'horizon.
Oui, puis c'est amusant parce que chaque poème, en fait, le titre du poème, c'est le nom de la plante que tu peux planter, qui a les petites graines à l'intérieur du sachet. Dans le fond, tu les plantes et ça... Le poème est en l'honneur de cette plante-là, puis il y en a plusieurs. Donc, c'est quand même... Ah, mais moi, il y a une partie de moi qui trouve ça très cool, mais c'est aussi très, très hippie.
Oui, exactement. Puis il y a quand même une idée d'innovation là-dedans. On est vraiment dans, comme je le disais, une effervescence artistique. Donc, le couple Brody Gunn et Adler vont vraiment faire des trucs. Il y a justement Virginia, donc l'ex-femme de Brody Gunn, qui, dans l'introduction de sa poésie complète, raconte quand elle est arrivée à l'appartement et que Brody Gunn travaillait sur The Octopus Frontier et il avait avec lui littéralement un calmar de 2 mètres dans un grand seau sur le plancher de la cuisine. Puis là, il l'avait comme crapoutillé pour prendre des photos. Il était comme « Vite, vite, faut se dépêcher parce que la lumière va le faire dépérir. » Puis elle est juste arrivée et elle était comme « OK, on va prendre des photos pour la couverture du livre. » Donc, on est vraiment dans un esprit artistique un peu décalé, mais en même temps fabuleux avec Brody Gunn. Et c'est aussi dans cette période-là, donc là, on est plus dans les années 60, qu'il va commencer à écrire ce qui va devenir des romans, donc Confederate General from Big Sur, entre autres, qui va être publié plus tard, en 63, mais il l'écrit dès le début des années 60. Et surtout un roman qui est publié là, vraiment plus tard, mais qui va faire sa célébrité, qui est Trout Fishing in America, qui va se sortir en 67 et qui va le faire découvrir au grand public. faut dire que Trout Fishing in America, c'est un roman. C'est comme ça qu'on le classe, mais ça s'apparente pas du tout à la forme romanesque telle qu'on la connaît.
Ben juste dans le titre, la pêche à la truite en Amérique, on dirait un guide de pêche. Tu sais.
Oui, puis il y a une anecdote d'ailleurs que beaucoup d'endroits de chasse et pêche l'ont commandé parce qu'ils pensaient que c'était un guide de pêche et ils ont réalisé que c'était pas du tout ça. C'est dur à décrire et j'ai donné le défi à Milly d'essayer de nous décrire c'était quoi Trout Fishing in America, la pêche à la truite en Amérique. Là, en français, il faut dire que les deux, nous l'avons lu dans sa version traduite.
Oui, ben écoute, j'ai vraiment jamais rien lu de tel. C'est un roman qui est à la fois décalé, poétique. C'est vraiment difficile d'expliquer c'est quoi l'histoire, donc je vais faire du mieux que je peux. Je vous dirais que c'est comme un assemblage de toutes sortes de scènes disparates. C'est des chapitres très courts. Il y a à la fois des histoires de pêche, de camping, des anecdotes éclectiques un peu absurdes. Et la pêche à la truite en Amérique, qui est le titre du livre, c'est aussi des fois c'est quelques personnages différents. C'est un déguisement, un hôtel, une librairie, un ruisseau en pièces détachées, un cadavre à autopsier, un slogan terroriste d'école communale, okay. Un confident épistolaire, un voyageur planétaire ou un organisateur de marche communiste pour la paix. Donc, à travers le livre, La pêche à la truite en Amérique, c'est tout ça.
Est-ce que ça ressemble un peu à Amos d'Aragon? C'est ma référence.
Écoute, je pourrais pas te dire parce que je n'ai pas lu Amos d'Aragon.
La meilleure façon de le décrire, c'est que ça ressemble à rien. D'ailleurs, la couverture du livre, c'est lui avec une femme, je me souviens plus de son nom exactement, et il y a le premier chapitre est un commentaire sur la couverture du livre et on revient à la couverture pendant le roman. Donc c'est quelque chose, la plupart des gens qui ont eu ce manuscrit-là entre les mains avant qu'il soit publié dans les années 60 étaient là, mais qu'est-ce que cet ovni littéraire? Ils savaient que ça allait probablement marquer les esprits, ce qui arrive d'ailleurs, le Brody Gunn devient un peu la tête d'affiche de la jeune génération en place.
C'est intéressant, c'est un pari risqué parce que tu dis ça allait marquer les esprits, mais quand quelque chose est un peu sort du cadre, quand les gens décident du n'importe quoi, ça aurait pu être un flop monumental, puis que jamais personne ne lit ça. Là.
Ouais, mais je pense qu'on est dans une période quand même où justement c'est ce qu'on souhaite avoir. Beaucoup de gens qui cherchent qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui sort du cadre à ce moment-là avec les deux, les contre-cultures, là, donc le mouvement beatnik, comme je le disais, puis le mouvement hippie. D'ailleurs, ça va être la même année que Brody Gunn va publier son poème le plus connu, qui est All Watch Over by Machines of Loving Grace, qui va être publié dans le recueil du même nom. J'avais le goût peut-être de vous faire entendre un extrait. En fait, le poème au complet, il est très court et vous allez voir un peu l'esprit de cette poésie.
I like to think, and the sooner the better, of a cybernetic meadow where mammals and computers live together in mutually programming harmony like pure water touching clear sky. I like to think, right now, please, of a cybernetic forest filled with pines and electronics, where deer stroll peacefully past computers as if they were flowers with spinning blossoms. I like to think, it has to be, of a cybernetic ecology where we are free of our labors and joined back to nature, returned to our mammal brothers and sisters, and all watched over by machines of loving grace.
Alors, le poème qu'on peut traduire là, par « tous surveillés par des machines d'amour et de grâce » qui est à ce moment-là, justement, de la où on sent vraiment qu'il y a un mouvement qui se fait vers une modernisation où les machines prennent de plus en plus de place. Et Brody Gunn propose un poème qu'on n'est pas sûr si c'est une critique de ça, si c'est ironique, cette espèce de rêve-là, ou si c'est vraiment une espèce d'idéalisation de ce monde. Mais on nous conduit quand même là, dans un univers très particulier et très Brody Gunn. Et ça va vraiment marquer quand on se réfère à Brody Gunn en tant que poète, c'est le poème qui revient là, constamment.
Parce que c'est essentiellement, là, pour pas nécessairement lire la traduction totale, c'est justement une espèce d'utopie où les humains et les machines vivent dans l'amour, puis semblent aussi retourner à la nature.
Ouais, c'est ça, il y a quelque chose, il y a une espèce de paradoxe à l'intérieur du poème, qu'on se rappelle les années 50, 60 surtout, là, cette idée du retour à la terre, et là, il passe par l'industrialisation et la modernisation, parce que la fin, c'est ça, c'est, il me plaît d'imaginer une écologie cybernétique où libérer de nos labeurs et retourner à la nature auprès de nos frères et sœurs mammifères, nous sommes tous surveillés par des machines d'amour et de grâce. C'est très pété, la poésie de Brodigan. Mais bon, c'est ça. Donc, ça va vraiment, ça va en faire, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, la tête d'affiche du mouvement contre-culturel hippie. C'est beaucoup les jeunes étudiants à l'université qui tombent là-dessus, qui sont comme non, mais vous avez pas lu Brodigan, on peut imaginer le scénario. À noter que, par contre, même si on l'appelle le dernier des beatniks, il va jamais faire partie vraiment du mouvement beatnik en tant que tel, avec les trois figures marquantes, le Ginsberg, Burrow et Kerouac. Il se détache un peu de ça. Il est même un peu boudé par Ginsberg, parce que justement, il vient pas du même milieu, c'est loin d'être un intellectuel, il est pas allé à l'école plus loin que je sais plus quelle année, mais tu sais.
Il a son diplôme d'études secondaires.
Ouais, c'est ça, puis il a rien fait par la suite, il avait pas l'argent d'aller à l'école. Enfin, donc, il arrive un peu d'ailleurs, puis il devient une figure aussi populaire, ce qui, justement, le détache de ces gens qui, eux, voulaient faire quelque chose en plus artistique, plus justement contre-culturel. Donc, il voulait pas devenir des vedettes. Alors que Brodigan a aimé sa période de célébrité.
Mais c'était pas ces beatniks-là, Kerouac, Ginsberg et compagnie, c'était pas également des figures populaires évidemment d'une contre-culture. Je pense pas que toute l'Amérique savait qu'ils étaient qui.
Ouais, ben là, on peut vraiment parler longtemps, mais il y a Ginsberg qui a comme suivi le mouvement hippie, puis lui est devenu une espèce de tête d'affiche également de son côté du mouvement hippie. Kerouac s'est vraiment détaché de tout ça. Burroughs aussi, ben là, dans ces années-là, Burroughs faisait beaucoup d'héroïne. Et puis, il y a eu un scandale. En tout cas, enfin, on n'entrera pas trop là-dedans, mais ce que je veux dire par là, c'est que Brodigan, au final, ne se lie pas d'amitié avec eux. Il y a des amis qu'on considère comme des beatniks, mais lui, en tant que tel, il fait vraiment ses affaires de son bord.
Mais il doit attirer un public assez similaire de ces auteurs-là.
Oui, effectivement. Mmh. Il est quand même dans le même range d'esprit, mais justement, il va vite se détacher de l'espèce d'intelligentsia de San Francisco, parce qu'il va s'acheter une maison à Bolinas, qui est également en Californie, très proche de San Francisco, mais un peu plus loin, puis il va passer beaucoup de temps là-bas. Il va également prendre possession d'un ranch au Montana et voyager au Japon, où il va rencontrer sa deuxième femme. Et puis là, il se met à publier énormément de romans, surtout In Watermelon Sugar, The Hawkline Monster, Wheeler and His Bowling Trophies, Dreaming of Babylon, A Private Eye Novel. Et il publie aussi des recueils de nouvelles. Ben, Tokyo Montana Express, c'est un livre qu'on considère parfois comme un roman, mais qui s'apparente beaucoup plus à un recueil de nouvelles, et Revenge of the Lawn, la revanche de la pelouse. Donc, il a publié encore plus que ça, j'en ai mis juste quelques-uns pour se donner une idée un peu de tout ce qui sort, et beaucoup de ces romans-là, c'est des espèces de parodies, donc des westerns, anti-westerns, pour parler de The Hawkline Monster, qui a d'ailleurs le sous-titre A Gothic Western. C'est des livres qui sont vraiment dans un monde imaginaire différent de tout univers que vous avez pu lire dans votre vie.
Et ces publications-là, que tu disais, on est fin des années 60, puis ça s'étale jusqu'aux années 80.
Exactement. Donc, on est vraiment... C'est très précisément ce Ranchley. Il va également publier de la poésie en parallèle, entre autres son journal japonais. Mais en 84, malheureusement, on n'aura plus de nouvelles de lui. Il téléphonait vraiment beaucoup à ses amis, donc on est surpris de ne pas avoir eu de coup de téléphone de Brodigan pendant presque une semaine. Et finalement, on va le retrouver mort, suicidé par balle, dans sa maison à Bolinas le 25 octobre, donc 1984. Mmh. Au niveau de son suicide, c'est sûr qu'on sait qu'il souffrait d'alcoolisme, qu'il était également dépressif, de toute évidence. Mais aussi, il faut dire qu'il y a eu un gros déclin là, à partir de la fin 60, début 70, comme je le disais tout à l'heure, une vedette de la littérature. et de fil en aiguille, on se désintéresse beaucoup à lui. Donc l'insuccès là, a peut-être joué pour une part, là, il était en retiré, puis il vivait que pour l'écriture, et il avait déjà dit des choses comme « tant que je vais être lu, je vais rester en vie, mais tu sais, ça se peut que si un jour on me lit plus ». Il était encore lu, mais c'était pas la vedette que ça l'avait été, là, comme je dis, à la fin des années 60. Mais malgré ça, malgré le fait qu'on l'a oublié un petit peu à la fin de sa vie, on le reconnaît quand même aujourd'hui comme un des écrivains les plus marquants de son époque. Du moins, c'est devenu un peu un écrivain culte. En préparant l'émission, d'ailleurs, il y avait mon livre qui traînait l'autre jour dans un endroit public. Et il y a un monsieur d'une cinquantaine d'années qui est venu me voir et il a fait « qui lit du Brodigan? » Puis il était vraiment surpris de voir un jeune lire du Brodigan parce que pour lui, c'est ça, là, c'était une célébrité de son époque. Et puis là, moi, j'avais ce livre-là. Puis justement, il n'y a pas énormément de gens qui le connaissent, mais les gens, quand ils le connaissent, ils se reconnaissent entre eux, le phénomène culte comme on le connaît. Il faut dire que ce qui participe à ça, c'est qu'il a travaillé beaucoup en marge. Il vivait uniquement pour son écriture, comme je le disais tout à l'heure. Et l'écriture, en tant que telle, elle ressemble à rien. Il y a un mélange d'humour, de simplicité, naïveté. C'est surréaliste par moments. Donc, c'est pour ça qu'il laisse encore aujourd'hui une marque indélébile, du moins à n'importe qui finit par avoir un de ses romans ou de ses poèmes entre les mains. Donc, c'est quand même intéressant de remarquer ce rapport-là avec à la fois quelqu'un qui a à ce point marqué son époque et qu'on a un peu oublié. Et ça m'a demandé à me demander qui est-ce qui pouvait faire de Brodigan la tête d'affiche de son époque. Je sais pas si vous avez une idée dans ce que je viens de vous dire, dans ce que vous avez vu ou lu de lui.
C'est peut-être qu'il incarnait très, très bien certaines mentalités de l'époque. Justement, quand tu parlais de... On essayait de déconstruire certaines normes et d'aller dans la marge. Et en même temps, il y avait un côté de ce que j'ai lu de Brodigan. Souvent, la nature est un thème récurrent. Il y a quand même une espèce de c'est groundé son œuvre. Hein. On parle des étangs, on parle des lacs, on parle des plaines. Il y a quelque chose de très, justement, de l'esprit de la nature qui, parfois, pouvait être oublié par certains beatniks, j'ai l'impression. Là, lui, on dirait que c'était très, très important dans son œuvre, très ancré dans son œuvre.
Mm-hmm. Mais je pense aussi que les valeurs qui sont véhiculées par sa façon de créer des œuvres. Tu sais, on parlait tantôt de « Please plan this book », tout ça. Son côté vraiment innovateur, le fait qu'il crée des mondes complètement indescriptibles et absurdes et à la fois poétiques et tout ça. Je pense que ça rejoignait cette espèce d'idéalisme un peu hippie, de le flower power, le psychédélique. Il y a tout ça un peu dans ses œuvres, autant dans ses poèmes que dans les romans. Je pense que ça aussi, clairement, ça venait rejoindre là. Je pense pas qu'on peut vraiment dire que c'est une idéologie, les hippies, mais en tout cas, le mouvement, clairement.
Oui, effectivement, il y a quand même une appartenance, même on le voit dans son ethos, là, dans qu'est-ce qu'il dégage, son style vestimentaire, sa voix, l'attitude d'artiste que je parlais tout à l'heure. Mais il faut quand même dire que je crois pas que Brodigan a... c'était bien dit, ça, que Brodigan a écrit pour son époque. Je pense que ce qu'il a écrit a fini par représenter dans une certaine mesure son époque, mais dans une autre mesure, vraiment pas, sur certains romans parodiques où justement on est dans le western où il y a une violence quand même qui est loin du peace and love. Donc, au final, je crois que Brodigan, je l'avançais un petit peu tout à l'heure, mais c'était un écrivain d'abord et avant tout. Et c'est dans cette volonté d'écrire, de toucher les gens qui était tellement fort qu'il a fini par y parvenir. Et je veux juste lire quelque chose que Virginia Brodigan, donc son ex-femme, disait dans la préface dont je parlais tout à l'heure. La préface, c'était quoi la démarche d'écriture de Brodigan? Une liste qui s'était faite, et c'était 1. Écrire un poème, le réécrire. 2. Choisir un titre, en changer. 3. Taper le manuscrit d'un poème à la perfection sans faute. 4. Le lire aux amis, le réécrire. 5. L'envoyer partout dans le monde dans l'espoir qu'il y prenne racine partout. Donc, cette idée-là de justement le poème qui va prendre racine chez son lecteur, je pense que c'était tellement fort chez Brodigan qu'il a réussi à y parvenir à la fois à son époque, mais également en dehors, la preuve étant qu'on en parle aujourd'hui pendant une heure à la radio.
C'est très inspirant, justement. On est à la radio, on l'oublie pas, il y a des pauses publicitaires, il y a de la musique. Pat, Richard Brodigan, ça t'a inspiré quel type de musique? C'est quoi qu'on s'en va entendre?
Ça m'a inspiré From Richard Brodigan, de Case Studies. En fait, Millie et moi, on a fait beaucoup de recherches pour trouver une chanson. On va pouvoir en reparler après la pause, mais cette chanson-là, c'est plutôt folk et ça va faire référence directement à des écrits de Brodigan.
Bon, ben on écoute quelques publicités et ensuite on écoute ça. Restez aux ondes de Chiz 94.3 à l'écoute de la planète des sages.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
T'as envie de rire, te divertir et parler des vraies choses? Entre toi et moi, c'est la nouvelle émission sans tabou à ne pas manquer cet automne. Rejoins-nous chaque mercredi de 9h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Le 2 décembre à 20h, Avatar vous invite à l'événement Plein Jeu. Sept artistes invités feront résonner le majestueux orgue du Palais Montcalm par le biais de dispositifs électroniques. Plein Jeu est une production d'Avatar. Billetterie, palaismontcalm.ca.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Une nouvelle scène pour les artistes émergents ouvre ses portes à Québec. Le Palais Montcalm vous invite chez Madame Bélé. Une salle feutrée, un lieu chaleureux, une ambiance originale, un espace lounge au cœur de la place Diouville. Pour célébrer l'ouverture, 6 spectacles gratuits mettant en vedette des artistes de Québec. Réservez vite vos billets gratuits au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm vous souhaite la bienvenue chez Madame Bélé.
love poem. It's so nice to wake up in the morning all alone and not have to tell somebody you love them when you don't love them anymore.
Oh, love poem. It's so nice to wake up in the morning all alone and not have to tell somebody that you love them when you don't love them anymore.
Love poem. It's so nice to wake up in the morning all alone and not have to tell somebody you love them when you don't love them anymore.
Donc, trois fois le même poème, oui. Différemment. Évidemment, des poèmes de Richard Brodigan.
Exactement, après la chanson qui référait à Richard Brodigan. Donc, la chanson, comme je le disais tout à l'heure, c'est From Richard Brodigan de Case Studies. C'est sorti sur l'album This Is Another Life en 2013. Les poèmes, je crois que ça fait référence à Karma Reaper Kit 1-2-4 et à Please Plant This Book aussi dans les paroles de la chanson. Donc, Brodigan a inspiré quand même beaucoup, beaucoup d'artistes en musique, mais ailleurs également. En faisant des recherches avec Millie, on a remarqué que beaucoup de trucs qui ont inspiré, c'est punk. Étonnamment. Là. Donc, dans l'univers du punk, peut-être pour justement son côté très... subversif peut-être, qui fait quelque chose de... Ben, subversif plus ou moins au niveau des valeurs ou de la société, mais au niveau de la forme, là, esthétiquement subversif.
Quand on voit justement que c'est... Tu sais, Brodigan, c'est pas totalement hippie, c'est pas... Tu sais, il s'inscrit pas dans le courant. Juste le fait que des punks se le réapproprient, tu sais, moi, ces mouvements-là sont pas totalement aux antipodes, mais il y a quand même toute la notion de paix, amour, que les punks sont pas si connus pour ça.
Ouais, mais tu sais, il y a une filiation, parce qu'on est dans les contre-culture, encore une fois. Et ça fait quand même un lien avec ce qu'on écoutait après. C'est un extrait de Listening to Richard Brodigan, qui est un album qui n'a paru qu'en vinyle, où Richard Brodigan lit des poèmes, mais également, il y a un jeu, là, vous voyez, l'extrait Love Poem, c'était des lectures de différentes personnes. Donc, on en a entendu trois, mais il y a 5 minutes de Love Poem. Donc, on voit justement s'amuser sur la forme. Peut-être pour ça aussi que ça peut inspirer justement des punks. Je sais pas. C'était un guess parce que ça l'inspire aussi des gens comme Harry Styles, qui a fait son hit de l'été, Watermelon Sugar. Ben, ça vient du roman de Brodigan, In Watermelon Sugar. C'est une inspiration directe.
Sucre de pastèque en français.
Oui, exactement. Un livre, d'ailleurs, dont j'aimerais qu'on écoute un extrait. On va le lire, c'est Millie qui va s'en charger. Donc, un extrait de Sucre de pastèque où le personnage se présente. Il faut dire, là, pour remettre les auditeurs dans le contexte, Sucre de pastèque, on est dans un univers assez spécial où tout est fait en sucre de pastèque. Et puis, le personnage est un écrivain et il n'y a pas eu d'écrivain depuis plusieurs années, comme une bibliothèque avec quelques livres, mais lui, il décide d'être écrivain, puis ça va de soi. Là. Les gens sont comme « Ah, ben oui, c'est l'écrivain. » Et puis là, il nous dit quel est son nom.
Donc, le titre, c'est « Mon nom ». J'imagine que vous êtes plutôt curieux de savoir qui je suis, mais je suis de ceux qui n'ont pas de nom fixe. Mon nom dépend de vous. Donnez-moi le premier nom qui vous passe par la tête. Si vous pensez à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, quelqu'un vous a posé une question et vous ne connaissiez pas la réponse. C'est ça mon nom. Peut-être qu'il pleuvait fort. C'est ça mon nom. Peut-être que vous avez regardé fixement l'eau d'une rivière. Il y avait quelqu'un près de vous qui vous aimait. On allait vous toucher. Vous l'avez senti avant que cela n'arrive, et puis c'est arrivé. C'est ça mon nom.
C'est une partie du chapitre qui dure encore plus longtemps, donc il y a encore plus d'événements, de choses.
D'exemples qu'est-ce que ça pourrait être son nom.
Ouais, exactement. Moi, je trouve ça magnifique, ce passage-là. Cette idée que le nom d'une personne peut être justement un sentiment que la personne qui veut nommer ressent. Donc, c'est vraiment... Il y a toute une dynamique. C'est tellement dur à expliquer et c'est ce qu'on confronte tout au long de l'émission et tout au long même de la semaine. J'essayais d'en parler, François, de certains moments dans la pêche à la truite, entre autres. Et là, tu t'en fourbes dans... Mais dans le fond, c'est ça, mais c'est pas ça. Mais c'est super dur de dire qu'est-ce qui se passe. Et paradoxalement, c'est super simple. La charge poétique, moi je considère que cet extrait-là, même si ce n'est pas un poème, c'est ultra poétique, mais c'est loin d'être dans le lyrisme, c'est loin d'être dans les envolées, c'est... les mots sont là, sont... c'est écrit d'une manière très simple. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là à lecture, quand vous lisez du Brodigan, comment vous décririez le feeling?
Ben, comme je le disais, moi, je suis pas un grand consommateur de poésie, mais des fois, il y a une image qui vient avec la poésie, que c'est quelque chose de très... comment dire? C'est très haut culturellement parlant. Il y a une espèce d'élite, puis des fois, il y a comme le vocabulaire qui vient avec ça, ou même une structure dans les vers, les alexandrins. Tu sais, il y a quelque chose de très... une connotation très... je sais pas comment dire ça, mais de haut niveau culturel. Mais avec Brodigan, on est dans une... plus grande simplicité. On n'a jamais ce feeling-là de tu sais, des fois, de pas être à la hauteur du poème en tant que tel.
Mais je pense que la poésie, quand même, ça tend à changer. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de mouvance pour une simplicité de la poésie, que c'est moins complexe que ça l'a déjà été. Peut-être que c'est indirectement inspiré de Brodigan, parce qu'effectivement, il y a une façon de s'exprimer qui est très simple, qui est à la fois vraiment très limpide, mais en même temps, c'est difficile d'expliquer de quoi ça parle, juste parce que c'est, il crée des images qui sont pas nécessairement réelles, ou du moins qui sont pas nécessairement ancrées là, dans un quotidien ordinaire. Il y a toujours quelque chose de l'imagination, finalement. T'sais, un monde qui est fait en sucre de pastèque, ben ça existe pas pour vrai.
Ouais, merci de le préciser. Oui.
Et il faut dire que je pense que cette impression-là, François, que tu décris d'une poésie qui est justement plus élitique, vient beaucoup de notre culture...
élitiste.
Désolé. Elle vient de notre culture, justement, littéraire française. Donc, on se fait enseigner principalement la littérature française, par exemple, au cégep. Alors que... aux États-Unis, ça a été quand même tôt dans leur littérature où il y a eu une révolution. En introduction, je parlais de Whitman, donc qui est un des premiers poètes à vraiment avoir brisé cette idée-là de ça doit être des alexandrins, où il doit avoir une forme particulière. Donc de vraiment déconstruire cette idée-là. Et les États-Unis ont beaucoup plus grandi avec cette poésie libre là, qui cherche à exprimer des... à révéler des images, mais autrement que dans une forme très, très figée. Enfin, donc, je pense que ça participe à ça que Brodigan, justement, avec des inspirations comme Emily Dickinson, comme Carlos Williams, il y a clairement l'influence de ça, là, de faire une poésie qui est beaucoup plus libre, qui se permet. Mais même au-delà de ça, même une poésie qui va être... qui ne sera pas formé, qui ne respectera pas des codes très précis, peut quand même aller dans un langage plus complexe, alors que chez Brodigan, comme je le disais, parfois on a l'impression que c'est écrit par un enfant. J'en suis même là à me poser la question, qu'est-ce qui différencie un texte de Richard Brodigan et un texte d'un enfant qui commence à écrire, qui met des mots très simples et qui crée des images éclatées à cause de son imaginaire?
Mais je pense que même si c'est très imaginatif, comme un enfant qui invente une histoire, il y a quand même une certaine maîtrise de la langue, tu sais, au niveau, ne serait-ce que genre grammaticalement parlant, chose que les enfants maîtrisent pas toujours tout à fait. Mais il y a aussi cette idée qu'il y a certains sujets que clairement c'est pas des sujets sur lesquels un enfant écrirait, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose d'enfantin. Par contre, je pense que c'est plus ça qui le distingue.
Et parce que moi aussi, le peu que j'ai lu à un moment donné, j'ai vu quelque chose d'enfantin de par une espèce de... des fois, un ajout dans une phrase que tu dis. Il me semble que j'entendrais un enfant ajouter ce segment d'information-là qui fit moyen avec le reste, mais qui fit parce que ça crée une espèce de d'humeur, mais que normalement, dans un discours plus adulte, ce boulot d'information serait pas là.
Oui, ben en fait, j'ai l'impression que souvent, il commente sa propre histoire, sa propre écriture. Il y a souvent comme des informations un peu en parenthèse dans la phrase de comme « Mais moi, je pense que telle affaire. » Puis là, genre, il continue son histoire. Tu sais qu'un enfant aurait tendance à faire ça quand il raconte une histoire, puis c'est toujours un peu décousu aussi. Oui, donc,
il y a des indices clairs dans l'œuvre où lui-même se revendique quand même d'un certain esprit enfantin. Hier, je lisais le journal japonais et je suis tombé sur ce poème qui est « Âge 41 ans ». C'est le titre. Et le poème, c'est « Joie des jeux, joie des jeux. Je pense n'avoir jamais vraiment cessé d'être un enfant et de joie des jeux, joie des jeux. » Donc, quand même, c'est assez clair. Mm. Et son univers, plus que même au-delà de son écriture, son univers, il y a quelque chose d'enfantin. Je trouve que ça passe surtout par le fait que la plupart de ses romans, il n'y a pas de tension. Les choses vont super bien, super mal parfois, mais il n'y a pas d'éléments où on est vraiment comme tiraillé. Il y a une scène, entre autres, dans Sucre de pastèque où il y a des tigres, et les tigres sont méchants. Les gens, ils veulent se débarrasser des tigres. Et le personnage principal, ses parents, se sont fait manger par les tigres. Et quand il arrive à la maison, la scène est graphique, c'est dégoûtant. Là. Les tigres sont en train de manger ses parents, mais il y a juste une discussion parce qu'ils parlent, les tigres, bien sûr. Et il y a une discussion avec les tigres. Les tigres sont comme « Excusez, on sait que c'est pas fin, mais on est obligé de faire ça. » Mais là, lui, il est comme « Ah ouais, c'est triste. » Puis là, les tigres l'aident avec ses devoirs de mathématiques. Un peu comme une histoire d'enfant. Récemment, je donnais un cours de théâtre et je faisais raconter une histoire en chaîne. Chaque enfant a commencé l'histoire et l'autre enchaînait sur ce que le premier avait dit. Et ils mettaient énormément de péripéties dans leur histoire, mais jamais un élément qui restait et qui créait cet effet-là de tension dont je parle depuis tantôt.
Oui, effectivement, il n'y a pas de suspense dans les livres de Brodigan. Par exemple, il y a le roman Un privé à Babylone, qui est une espèce de parodie de roman policier. Et un roman policier, habituellement, il y a quand même une tension, un suspense. Tu cherches qui est le meurtrier ou en tout cas, tu sais, il y a une enquête. Puis là, tu te demandes qu'est-ce qui va arriver. Puis dans ce livre-là, il y a absolument pas ça. Même si le personnage, finalement, fait une genre d'enquête. Et donc, je trouve que c'est un bon exemple de ça, justement.
Et de ce que je comprends également, puis de ce que j'ai lu, il ne semble pas avoir non plus une charge émotionnelle au sens où que en écriture, souvent, bien, on parle de poésie ou même de prose, mais ça arrive assez souvent que l'émotion est une espèce d'inspiration pour énormément d'écriture sur le sentiment de la personne. Brodigan, en tout cas, s'il le fait, c'est peut-être d'une autre façon.
Oui, en fait, c'est ce que tu décris beaucoup, l'image qu'on a du roman psychologique, ouais. Qui est quelque chose qui est apparu dans les derniers siècles, disons le roman où on entre vraiment dans l'intériorité du personnage pour essayer de comprendre ses faits et gestes et pour essayer justement d'avoir un rapport direct à sa psychologie, eh bien effectivement on est loin de ça avec Brodigan parce que c'est l'image qui prévaut, puis c'est à ce titre-là que je pense il y a des gens qui ont dit que son œuvre complète était poétique, donc même ses romans finalement c'est des espèces de longs poèmes. Et à l'inverse, moi, je dirais que sa poésie, elle est plutôt en prose qu'en poésie. C'est beaucoup des phrases. Donc, la différence entre la prose et les vers, c'est qu'en fait, les vers, c'est comme les poèmes tels qu'on les connaît, là, comme des
avec strophes, une structure.
Oui, ben en fait, c'est des vers, c'est des bouts de phrases qui s'enchaînent. Là. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ouais, François. Ouais. Là, je t'explique toi, vu que je sais que tu es l'ignorant poétique du jour.
Merci de spécifier poétique. Mais, oui, une phrase, puis quand on lit aussi, une espèce de pause qui vient avec. Oui,
exactement.
Structure-là.
Alors que la prose, bon, ben, c'est comme dans un roman, là, c'est le texte suivi. Et la prose, ça vient de prosaïque, ça vient de quelque chose qui est très proche du réel. Donc, Brodigan, je trouve, est vraiment à cheval entre les deux. Ses poèmes tendent vers la prose, mais ses romans tendent vers la poésie. C'est comme ça que je le décrirais. Et il faut dire, par rapport à l'univers d'enfance dont on parlait tout à l'heure, qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Là, mon but n'est pas faire de la psychanalyse d'auteur, là, dans le sens de psychanalyser l'écrivain en tant que tel, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le fait que il a pas vraiment eu d'enfance, adolescence, dès très jeune, sa vie était dure. On raconte qu'il était entre autres intimidé à l'école et tout ça. Et qu'on dirait qu'il y a comme cette enfance-là qu'il a plus ou moins eue. Pour moi, c'est perpétue dans ses romans. On dirait qu'il vit un peu cette enfance-là dans son écriture.
Il y a de quoi de pas régler, ce gars-là. Non, mais sans vouloir faire de mauvaises blagues, mais j'ai l'impression que c'est un thème qui est récurrent en littérature, mais également en art, des espèces de retour à l'enfance-là, de d'inspirant parce que l'enfance est comme, tu sais, l'imagination est débordante, puis il y a une espèce de discours artistique que l'enfance, c'est comme, tu sais, c'est sûr qu'il faut aller rechercher dans l'art parce que c'est là qu'il y a une espèce de créativité sans borne et dans laquelle on peut aller puiser certaines choses que l'art a nous révélées. Là.
Baudelaire disait que le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Quand même. Une belle citation de Baudelaire comme ça. On dirait quasiment que j'étudie ça en ce moment.
Wow!
Mais oui, donc enfance, mais également un côté assez surréel dans ce qui est écrit, qui vient de cette imagination débordante, mais qui se rattache même aux rêves. Et Émilie, je sais que tu voulais nous en parler, vu que toi, c'est ce qui t'appelle le plus dans la poésie de Brodigan et dans ses romans également.
Bien, je pense que c'est vraiment ce qui m'a frappé le plus, en fait, dans ma lecture, parce que c'est vraiment là, on est toujours plongé dans un monde qui est décalé, peu importe l'histoire. Puis il y a vraiment quelque chose de surréaliste, même s'il n'est pas du tout associé au mouvement artistique du surréalisme, on peut quand même faire un certain parallèle avec, par exemple, L'écume des jours de Boris Vian, qui est un roman qui est souvent qualifié de surréaliste.
Mais personnellement, juste excusez de couper Émilie, mais dans Sucre de pastèque, la première fois que je l'ai lu, c'est le premier lien que j'ai fait. Moi, j'avais l'impression que c'était L'écume des jours en version américaine. Donc, quelque chose déjà dans L'écume des jours, il y a peut-être un langage justement un peu plus lyrique, alors que Sucre de pastèque, c'est l'écriture de Brodigan dont on parlait, là, si simple, même naïve par moment.
Mais je pense que ce qui rejoint les deux, en fait, c'est vraiment l'impression que c'est un peu comme un rêve. Personnellement, moi, je fais des rêves vraiment flyés. Puis je m'en rappelle avec beaucoup de détails le matin. Donc, les gens qui me connaissent bien sont habitués que je leur raconte mes rêves. Et en lisant Brodigan, des fois, je me dis que ça pourrait vraiment être un de mes rêves. Donc, j'avais un extrait que j'avais envie de vous lire un peu pour illustrer cette idée-là. C'est tiré de « La pêche à la truite en Amérique » du chapitre, qui est mon chapitre préféré dans le livre d'ailleurs, qui s'appelle « Le chantier de démolition de Cleveland ». Donc, toutes les cascades portaient une étiquette indiquant leur prix. Elles étaient plus chères que le ruisseau. Les cascades se vendaient 19 $ le mètre. Je suis entrée dans une autre pièce où il y avait un tas de madriers qui sentaient bon et luisaient doucement sous une autre lucarne qui, juste au-dessus des madriers, les baignait de jaune pâle. Dans les ombres, au fond de la pièce, sous la pente du toit, il y avait un grand nombre d'éviers et d'urinoirs couverts de poussière. Puis il y avait aussi une autre cascade qui faisait un peu plus de 5 mètres, en debout, posée par terre, et qui commençait déjà à se couvrir de poussière. Donc cet extrait-là est tiré d'un chapitre où le personnage va dans une espèce de quincaillerie, cour à scrap, on sait pas trop, où ils vendent toutes sortes d'affaires, dont des morceaux de ruisseaux et des morceaux de cascades. Et là, il décrit. Puis je trouve qu'il y a vraiment cette impression de, quand tu racontes un rêve, d'être comme, je suis rentrée dans une pièce, puis là, il y avait des cascades à vendre. Puis là, après ça, je rentrais dans une autre pièce, puis il y avait ça. Tu sais, quand tu racontes un rêve, c'est toujours un peu ça. Puis c'est super dur de bien le raconter parce qu'il y a toujours un espèce de côté un peu inexplicable. Puis je trouve qu'il y a vraiment ça dans l'écriture de Brodigan.
Oui, mais qui parvient à le raconter. C'est ça le succès de son écriture. Parce que justement, j'ai déjà assisté à toi qui me raconte des rêves, Émilie, par moment. Et bon, c'est intéressant parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais ça n'a pas justement cette charge poétique. C'est pas aussi prenant. En fait, c'est que raconter un rêve, c'est super dur de le faire et d'emmener l'autre personne dans notre univers onirique, et c'est ce que fait Brodigan.
C'est qu'on dirait que le rêve parle moins en espèce de sens, d'événements qui ont du sens, mais plus en une espèce d'humeur. T'sais, le rêve, c'est comme un peu tomber dans un tableau impressionniste ou toute une espèce de couleur. Le monde dans lequel tu tombes, il y a des événements, mais c'est surtout à travers le voile que tu le vois, de comment tu ressens des choses. Les événements sont en tant que tels sont bizarres, mais le moment qu'on vit lorsqu'on vit ces émotions, ces moments-là dans le rêve, on dirait que c'est là qu'il y a vraiment du sens caché, j'ai l'impression. Là.
Oui, puis je pense que un de... un des éléments qui fait ça, c'est qu'en fait, dans les rêves et dans l'écriture de Brodigan, il y a vraiment une association entre des éléments qui sont plutôt improbables ou des parallèles qu'il fait. Un exemple tout simple, il y a un chapitre où il parle d'un beau ruisseau à truites en cascade qu'il a vu au fond d'un jardin, qui finalement se révèle être juste un escalier blanc abandonné dans le fond de la cour. Puis je trouvais que l'image était super belle, la façon qu'il décrit. Puis c'est toujours un univers là, qui est comme à la frontière un peu entre le rêve et la réalité. Puis moi, personnellement, je trouve ça vraiment touchant. Ça m'émeut beaucoup. Je ne sais pas si vous, ça vous rejoint, ce côté-là, chez Brodigan.
Oui, je pense que c'est dans le fait que, justement, l'œuvre complète est construite comme ça parce que l'onirisme est beaucoup utilisé en littérature. Je pense à un de mes auteurs favoris, qui est Murakami, un auteur japonais, où il va beaucoup mettre des rêves dans ses romans. Puis parfois, il va avoir une espèce de mélange de frontières. Là, on n'est plus sûr si on est dans le rêve ou dans la réalité. Mais reste qu'il y a toujours cette espèce de quand même de twist, là, le fameux « ce n'était qu'un rêve » dont on arrête, ben, dont on dit toujours qu'il ne faut pas l'utiliser parce que ça a été surfait. Mais Brodigan, justement, il n'y a pas besoin de nous dire « OK, on va départager des univers et les mélanger. » Dès le début, on est dans cet univers-là, il nous suit jusqu'à la fin. Et il n'y a pas cette question de « Ah, est-ce que j'ai assisté à un rêve ou pas? » C'est « J'ai lu un roman et ce roman-là était foncièrement onirique. »
Mais c'est ça que j'allais dire. En fait, on n'a pas besoin, en lisant, de savoir si c'est un rêve ou non. C'est comme pas important. C'est juste ça, le monde dans lequel ça se déroule. Puis moi, personnellement, je trouve que ça crée des images qui sont vraiment brillantes puis qui reflètent une certaine beauté du monde. C'est pour ça que je trouve ça très, très bon et très délicieux de lire du Brodigan.
Oui, et excuse-moi, Patrick, mais aussi c'est que ce sentiment-là que je parlais quand on vit dans le rêve, ben, qu'un auteur réussisse à nous faire baigner dans ce de recréer ces sentiments-là d'une certaine façon, juste en lisant, ben c'est fascinant parce que, en tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Des rêves, on dirait qu'on n'y pense pas, vous arrivez à tous les jours, là, presque, là, mais c'est tellement bizarre, tellement bizarre.
Et il faut dire que... Personnellement, pour apporter ça vers la fin, parce que ben, malheureusement, le temps nous fuit entre les doigts, mais je dois dire que c'est la jubilation purement littéraire derrière ça. C'est rare, personnellement, que je lis des romans et que je mets à off ma petite switch de comme « Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça m'apporte? » Et quand j'ouvre un livre de Brodigan, je laisse cet univers-là me submerger, m'emmener avec lui. Et ça me fait tellement du bien. Ça me fait décrocher de la réalité. Puis je pense qu'il faut lire Brodigan quand même comme ça. Et c'est ce qui me rend d'autant plus heureux de, paradoxalement, aujourd'hui, avoir fait cet effort de réfléchir une heure. Donc la preuve que même si c'est dans la pure jubilation littéraire, il y a quand même quelque chose qu'on peut dire là-dessus.
Wow, Pat, c'est senti. On le sait que tu l'aimes et que tu apprécies ce moment avec nous. C'est partagé. Et la semaine prochaine, on va essayer de vivre encore un autre beau moment. Et on va parler cette fois de quelqu'un d'autre. De qui qu'on va parler, Patrick?
On parle de Bo Burnham.
Et j'ai hâte. Ça se passe, on voit qu'il présente cette fois. Eh oui, c'est l'humoriste Bo Burnham, ça va être le fun. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous aux ondes de Chiss 94.3 à l'émission La planète des sages. Vous êtes vraiment fabuleux, hein? Vous le savez. J'espère que vous le savez.
Vous êtes comme des livres de Brodigan.
Oui. Ouais. Ouais.
Je ne sais pas si ça fonctionne, ce que je viens de dire.
C'est un compliment, on va dire. Merci beaucoup, Milly Brousseau-Gauthier, d'avoir été avec nous. Merci, Patrick. Et merci à tout le monde, encore une fois, de nous écouter et rester aux ondes de Chiss 94.3 pour la suite des choses. Bye et à la semaine prochaine.
Chiss 94.3 FM à Québec.
Bord de la Réveillard Saint-Charles, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiss 94.3.
Passe d'abord, c'est bien fait. Le tir est le bon.
We'll be right back.
Ce jeudi 2 décembre, vos remparts affrontent le Phoenix de Sherbrooke dès 19h en direct du centre Vidéotron. Ne manquez pas l'avant-match à 18h45 avec Rick Loutier. Remparts contre Phoenix ce vendredi 19h seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Couche dans la cuisine, dans son lit rempli de vaisselle sale. J'ai passé la journée à bâcher sur Montréal, entre un verre d'eau et un aspirine en tenito. Oui, rien de nouveau. J'ai lu dans les journaux, j'ai saigné des yeux, une coupe de gun en l'air, des vedettes à rata. L'histoire est pas banale, mais pas rendue spéciale. Entre vous et nous, qui gagne à l'auto? Sur rien.